Good Morning Business, le grand entretien.
Il est 7h45 sur BFM Business. Notre invité, c'est Bernard Sananès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du cabinet Lab. Merci d'être avec nous ce matin. Marine Le Pen est donc candidate à la présidence de la République malgré sa condamnation en appel. C'est une situation qui est inédite. La question qu'on a pour vous ce matin, c'est est-ce que les électeurs suivront? Est-ce que cette stratégie de détermination fonctionne dans l'opinion?
Alors, vous l'avez dit, la situation est inédite, exceptionnelle. On a vécu hier une journée qui marquera incontestablement l'histoire politique. Donc, on peut émettre des hypothèses, mais vous comprendrez ce matin que même si je suis ravi d'être votre invité, on soit assez modeste et humble sur les conséquences. Moi, je crois effectivement qu'il faut distinguer deux approches quand on imagine quelles peuvent être les réactions éventuelles. La première, c'est ce qu'on appelle le socle électoral du Rassemblement national. Ce socle électoral du Rassemblement national, même s'il était partagé ces derniers mois sur la question de savoir qui était le meilleur des deux candidats, Bardella, Le Pen, il sera là. Si ça avait été Bardella, il aurait été là. Si c'est Le Pen, il est là également. Et donc, le socle électoral, les bastions électoraux du Rassemblement national, les milieux populaires, les zones rurales, les gens peu diplômés, etc. C'est un vote qui veut changer, qui veut renverser la table. Et il trouvera dans ce qui s'est passé hier des raisons supplémentaires, j'allais dire, d'aller voter pour le Rassemblement national. Se pose évidemment la question de l'élargissement, parce que le problème du Rassemblement national, il est aux portes du pouvoir, mais pour accéder au pouvoir, il faut faire 50% au second tour plus une voix. Et ce 50% plus une voix, il faut aller le chercher sur des électorats qui sont moins socles. Je pense par exemple aux cadres, je pense par exemple aux retraités, je pense par exemple aux électeurs de droite modérés, qui n'ont pas toujours voté pour le Rassemblement national quand il était présent au second tour et que leur candidat était éliminé. Et là, effectivement, il peut y avoir une réaction qui est de dire « Bon, mais elle est quand même condamnée, même si elle peut évidemment se pouvoir en cassation. Elle est condamnée. C'est la première fois qu'une candidate de ce niveau serait candidate et condamnée. Et donc, ce n'est pas un bon signe pour, y compris, la représentation du pays. » Ça, on va guetter ça dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, parce qu'il peut y avoir aussi des effets qui ne seront pas immédiats. Peut-être que sur le moment, il va y avoir une réaction de crispation de cet électorat. Et puis peut-être finalement, dans la campagne, je ne vais pas dire que cela va s'oublier, parce que les adversaires de Marine Le Pen vont bien sûr le lui rappeler à chaque instant, mais ça s'installera et c'est le pari que fait le Rassemblement National qui oubliera et qui spécule aussi sur le fait que l'opinion est assez critique vis-à-vis de la justice. On l'a vu dans les derniers débats, autres qui n'avaient rien à voir ces dernières semaines.
Quand vous regardez l'échiquier politique, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour le camp centriste, par exemple ?
C'est une nouvelle qui effectivement rend l'équation du second tour sur la dynamique de campagne peut-être plus complexe. Pourquoi je dis sur la dynamique de campagne? Parce que quand on regarde les sondages, qui ne sont encore une fois qu'une indication, Jordan Bardella faisait légèrement mieux que Marine Le Pen au second tour. Mais les candidats du bloc central, comme les candidats de gauche, etc., se sont tous installés dans l'idée que Marine Le Pen est une meilleure candidate parce qu'elle a plus l'expérience des campagnes, parce qu'elle saura résister. On se souvient des leçons qu'elle avait pu tirer du premier débat qui avait été un grand échec face à Emmanuel Macron. Au deuxième débat, elle avait tenu le débat, ce qui n'avait pas été
le cas. C'est mauvais pour les jeunes candidats, pour les Glucksmann, Attal.
Je pense que c'est plutôt effectivement pour les jeunes candidats, ceux qui voulaient se mettre non pas dans la roue de Bardella, mais dire il y a un renouveau des candidats et donc nous l'incarnons aussi. Je pense que ce n'est pas une bonne nouvelle pour eux.
Quand vous regardez ce qui émerge aujourd'hui dans la campagne, quand vous sondez l'opinion, quels sont les thèmes? C'est le pouvoir d'achat qui écrase tout. Vous voyez d'autres choses monter? On a vu des inquiétudes sur la question de la dette publique monter dans l'esprit des Français, par exemple.
Quand on pose la question de manière très directe, vous avez raison, depuis 2022, sans interruption, c'est le pouvoir d'achat qui est en tête des préoccupations et des attentes des Français par rapport au pouvoir public. Premier point. Deuxième point, ce sont toutes les questions régaliennes, et notamment le sujet de sécurité au quotidien, mais aussi trafic de drogue, etc. Troisième point, le sujet de la santé, qu'il ne faut pas oublier. Je vais y revenir tout de suite. Et effectivement, l'interrogation sur la dette. Pourquoi je parle de la santé? Parce que l'interrogation sur notre système de santé est regardée dans une question plus transversale, qui est finalement, est-ce que ce que l'on perçoit comme les carences du système de santé aujourd'hui n'est pas symbolique du déclin du pays? Il y a 10 ans, les Français nous disaient, je schématise, le pays ne va pas bien, mais le système de santé tient. Là, on a plutôt un réflexe qui est de dire le pays est en déclin. La preuve, même le système de santé, je pense notamment aux urgences à l'hôpital, aux investissements, etc., peut être cette symbolique. Et cette thématique de est-ce qu'il y a ou pas déclin du pays, ce sera une thématique transversale importante.
Mais on voit monter, notamment c'était le cas d'un sondage de l'Adresse ces derniers temps, la question du coût de la sécurité sociale, avec une idée chez les Français que ça coûte trop cher par rapport au système qu'on a mis en place aujourd'hui. Il y a une idée un peu de gâchis d'argent public derrière.
Alors, vous avez raison, mais il y a d'abord une attente, j'allais dire universelle, ou en tout cas qui rassemble plus de 8 Français sur 10 ou 9 Français sur 10, à la solidarité. On ne se projette pas dans un modèle où on s'assurerait socialement de manière individuelle. En revanche, dans ces 80-90% de Français, vous avez 30 à 40% d'entre eux qui disent le système, le principe, on y est attaché, mais ça ne peut pas continuer comme ça parce qu'il y a trop d'excès, parce que l'argent est mal dépensé, parce qu'il faut envisager des modalités plus souples. Par exemple, sur la retraite, le sujet de la retraite par capitalisation s'est installé dans l'opinion, et pas seulement chez les plus aisés, c'est une surprise.
Donc là, il y a un basculement quand même de l'opinion.
Il y a un intérêt, en tout cas, pour se dire, il faut rénover le modèle social français. De là à dire, il faut le mettre à mal, il faut basculer dans un autre système, pas du tout, on n'en est pas
là. Mais est-ce que ça peut aller jusqu'à l'idée de reconstruire un système de redistribution où on ne paye pas tous au même niveau, où les Français sont toujours attachés au fait que, par exemple, on paye tous le même prix du médicament, on n'a pas de système différencié en fonction de nos revenus. Est-ce que là, les Français sont très attachés à cette question d'égalité vis-à-vis de la santé et des soins, ou il peut y avoir une brèche?
Ils sont très attachés à la solidarité, qui n'est pas tout à fait
pareil que
l'égalité. Et le principe de l'universalité, on a vu ce débat, vous en souvenez, au moment des allocations familiales, c'était sous François Hollande. Les Français étaient pour qu'il y ait un traitement différencié. Pour l'instant, le débat sur le modèle social n'est pas cristallisé, mais ce débat sur le modèle social, et notamment sur les deux piliers santé-retraite, mais bien sûr la question du travail un tout petit peu derrière sur l'assurance chômage, mais santé-retraite, effectivement, c'est une interrogation qui va concerner tous les Français et qui va, j'en suis sûr, être au centre de ce débat, même si les alternatives, pour répondre à votre question, ne sont pas encore mises clairement sur la table.
Sur travailler plus, par exemple, quand vous sondez les Français, qu'est-ce que ça donne ?
Le rapport au travail, vous le savez, vous en parlez souvent ici, le rapport au travail a considérablement changé. Non pas que les Français ne veulent pas travailler, c'est une erreur de dire ça, mais le travail a pris une autre place, peut-être moins centrale. Nous avons connu des générations dans lesquelles le travail était, j'allais dire, quasiment le centre de la vie. Aujourd'hui, le travail doit combiner avec la famille, avec le lien social. Il a une place, mais moins centrale que précédemment. Donc, de là à dire « travailler plus », Sarkozy avait fait le travailler plus pour gagner plus. Cette phrase est restée dans la tête des gens. Et donc, derrière la question de travailler plus, il y a tout de suite la question du salaire, avec cette assertion partagée par 7 Français sur 10, qui est que le travail aujourd'hui en France ne paye pas assez. On aura tout le débat, ça j'en suis convaincu, sur la question des charges.
Oui.
C'est un débat qui prend et qui...
Le brut, le net, ça c'est un débat qui peut émerger.
C'est un débat qui émerge et qui n'est pas seulement un débat politique entre ceux qui sont à la droite de l'échiquier qui voudraient supprimer les taxes de gauche, non. C'est un sujet assez partagé dans le pays. C'est aussi une trace du mouvement des Gilets jaunes, hein, il ne faut pas l'oublier. C'est un des mouvements qui a marqué ces deux quinquennats d'Emmanuel Macron. Il y a effectivement cette attente de revoir la dépense publique pour rendre l'action publique plus efficace. Ça rejoint aussi ce que vous disiez, Laure, tout à l'heure sur le modèle social.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce que je comprends, c'est que les Français sont quand même ouverts à remettre le modèle social sur la table, en tout cas à discuter de la manière dont on le finance, de qui paye quoi. C'est un débat qui peut vraiment émerger.
C'est un débat qui peut émerger, mais à condition qu'il soit posé de manière de l'efficacité, mais aussi de la justice. Si ce débat, c'est pour enlever des prestations aux plus démunis, aux plus précaires, à ce moment-là, les Français se rendent compte.
Dernier point sur les points d'écologie. Oui. Qu'est-ce qui a émergé là des différentes phases de canicule ? Que le sujet revient sur la table ou juste il est vu sur un prisme individuel en disant « j'ai chaud, il faut que je me climatise et on ne va pas plus loin ».
Non, je crois que ça a remis en tête. Alors c'est vrai que la préoccupation écologique, je ne vais pas dire fluctue, mais en tout cas elle est mise aussi à l'avant des médias en fonction de ce qui se passe par rapport au climat. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, le débat autour de l'écologie n'est pas un débat politique. Il n'y a pas de clivage. Il y a un clivage politique sur l'écologie en tant que force politique, parlementaire, candidate peut-être à l'élection présidentielle. Mais sur la prise de conscience qu'il faut agir, là, les événements que nous avons vécus ont agi encore une fois comme un accélérateur. Et sur cette idée qu'il faut agir, que l'inaction coûterait plus cher que l'action, qu'il faut à la fois prendre des mesures collectives mais aussi individuelles, qu'il faut s'adapter et atténuer, il y a un consensus beaucoup plus large que ce que l'on peut penser dans l'opinion. Ce qui fait d'ailleurs que je ne suis pas sûr que ce soit un débat, puisque les débats qui émergent dans la présidentielle, c'est les débats des clivages. Et regardez ce qui s'est passé aux élections municipales, c'est assez intéressant. Il y a eu des maires écologistes battus, les écologistes ont perdu la moitié de leur ville par rapport à 2020, la moitié des grandes villes qu'ils détenaient. Mais pour autant, on n'a jamais autant parlé du cadre de vie, de la propreté, de l'écologie urbaine, y compris quand les candidats étaient de droite ou du centre.